Vous écoutez RTL.
11h04 sur RTL, c'est l'heure de retrouver Stéphane Bern. À la bonne heure.
Absolument, bonjour Anne. Et on retrouve Anne Lénaf à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Mais c'est l'heure d'à la bonne heure avec notre invité Patrick Dimsit aujourd'hui. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Eh bien, on va parler du spectacle, mais d'abord, je vous présente mes petits camarades. Je suis entouré de notre mère à tous, Joël Goron.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, maman.
De celui qui, après avoir fait le désespoir de sa mère, tente de se rattraper en nous interrogeant sur l'actualité, Régis Maillot.
Bonjour. Bonjour, Régis.
Bonjour à tous.
Du sans famille de la télé-réalité, Eric Dussard.
Bonjour à tous. Non, ce sera encore un hommage ce matin, bien bel hommage à Claude François. De nouveau, ce soir sur W9. Je l'ai regardé pour vous, on en parle tout à l'heure.
Décidément.
On rend beaucoup hommage. Quand c'est pas Johnny, c'est Claude François.
Ouais, Johnny, on n'aura pas attendu 40 ans pour commencer à raconter des méchancetés. Là, il aura fallu attendre 40 ans s'agissant de Claude François.
Très bien. Enfin, le père sévère, il est là, du test musical, Patrice Carmouze.
Bonjour.
Et un très beau cadeau à la clé. Ah oui, il faut le dire quand même, on gâte nos auditeurs. C'est un week-end dans l'une des résidences hôtelières Réside Home. 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner, plus une activité dans l'une des 33 résidences Réside Home. Il y a celle d'Arcachon, Nice, Marseille. Bref, au programme, vous savez qu'il y a des salles de fitness.
Pardon ?
Des
activités.
Des salles de fitness, jacuzzi, hammam, vous faites tout ce que vous voulez. Vous savez quoi ? Allez voir sur residehome.com. Vous avez toutes les activités. Bah, vous le ferez après l'émission.
Non,
parce que
restez là.
Vous n'avez pas le choix. Mais les auditeurs, par contre, peuvent s'inscrire au 3210 ou 74 900 par SMS avec le code bonheur en majuscule. Je vous présente notre invité. En cette journée internationale de la défense des ours polaires, qui, entre nous soit dit, serait plus en sécurité dans les rues de Paris ou dans le Bas-Rhin à moins 15 que sur leurs banquises qui font à plus 6. Ouais. Si nous prenions à la fois un peu de hauteur et d'avance, en célébrant dès aujourd'hui la fête des mères qui, osons le dire, devrait, à mon sens, être célébrée tous les jours.
C'est beau.
C'est un hymne à l'amour maternel qu'il nous invite tous les soirs au théâtre de l'Atelier autour de l'œuvre d'Albert Cohen, le livre de ma mère, tant il est vrai que les mots consolent et nous vengent. Depuis longtemps, il savait qu'un jour ou l'autre, il aurait rendez-vous avec ce texte sublime qu'il avait bouleversé il y a 30 ans. Mais il avait besoin de plus de maturité pour l'aborder en toute sérénité. Magnifique livre de deuil et d'amour. Ces mots nous touchent au plus profond car ceux qui ont perdu leur mère savent que pleurer sa mère, c'est pleurer son enfance. Tandis qu'il apostrophe les fils des mères vivantes, n'oubliez pas que vos mères sont mortelles. Aussi à l'aise dans un registre humoristique, et son spectacle On ne peut pas rire de tout sera diffusé sur C8 samedi 3 mars prochain, que dans l'émotion, je peux vous assurer qu'il emporte la salle du Théâtre de l'Atelier à Paris, où il se produit jusqu'au 17 mars à 19h, avant une tournée en France. Il est là avec nous ce matin sur RTL, c'est Patrick Dimsit.
Merci. Merci beaucoup.
C'est vrai que d'habitude, on vous reçoit ici pour des spectacles d'humour, on rit. Mais là, c'est vrai, rien que d'en parler, on est pris, on a le cœur qui serre, on est pris par l'émotion. Enfin, c'est vrai qu'à la fin de votre spectacle, le livre de ma mère au Théâtre de l'Atelier, il y a évidemment des applaudissements fournis, les spectateurs sont debout. Et on est pris par une émotion incroyable. Et vous avez évidemment connu ce genre de situation après vos one-man shows. Mais est-ce que pour vous, ces applaudissements-là ont une saveur particulière après 1h15, 1h30 d'émotion, où vous avez fait passer les textes d'Albert Cohen?
Oui, absolument, puisque c'est le moment où je peux me lâcher, justement, et laisser tout retomber. C'est peut-être le moment où moi, je suis le plus ému. Parce que, en fait, pendant ce spectacle, je veux absolument pas tomber dans dans le travail que je devrais faire à la place du public. C'est-à-dire, moi, être ému par rapport à ma propre situation, par rapport à ma propre histoire, et juste être là avec ce que je raconte. C'est-à-dire cet homme qui fait son deuil, en fait. C'est un spectacle de deuil, comme un livre de deuil. Au début du spectacle, ma mère morte est vivante, finalement, et à la fin, ma mère morte est morte. Avec ce constat terrible qu'aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourrait. Tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leur mère, les fous sitôt punis. Et moi, moi j'ai la chance d'avoir ma mère, donc c'était plus un hommage que
vous
je voulais
pas
rendre
qu'elle
aux mamans.
Je crois.
Ah ouais, non, ouais, bah, ouais je lui avais dit, c'est demi-tour, c'est direct dans le taxi, si j'apprends. Que tu viens voir.
Et elle est venue en douce,
à la première, carrément.
Je
pouvais absolument pas imaginer qu'elle soit là, parce qu'à la première, je me suis dit, non, elle tentera pas le coup, parce que ça sera trop dangereux pour moi. Mais elle m'a fait le coup de la mère de Cohen, elle m'a dit, voilà. Mais je suis vivante, mon fils, c'est normal, c'est un hommage à moi. Et d'ailleurs, elle a rajouté, pourquoi t'as pas écrit ton livre, le livre de ta mère, pourquoi t'as besoin de Cohen?
Alors on va parler, je vais vous faire une interview sérieusement, parce que d'habitude il est drôle, mais là on va être très sérieux, deux secondes.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Patrick Timsit pour le livre de ma mère. Au théâtre de l'Atelier, avant une tournée encore, parce qu'il avait commencé par une tournée, il continue par une tournée. Et c'est à Patrick Timsit plus grave, plus sérieux, peut-être, que celui qu'on a vu sur scène pour ses spectacles comme Peut-on rire de tout ? Donc j'ai fait une interview sérieusement. Sérieusement, Patrick, sur scène. C'est plus facile de faire rire ou d'émouvoir ?
C'est tellement différent, mais ça se rejoint. Par exemple, j'ai appris à quel point les silences pouvaient remplacer les rires et nous provoquer aussi un retour comme ça de la salle qui était aussi clair finalement qu'on pouvait vraiment interpréter. Et c'est ce qu'il m'a fallu, et c'est pour ça que je l'ai joué avant d'arriver à l'atelier, à prendre cette confiance et oser les silences, oser tant que ce fil est tendu entre moi qui parle, eux qui écoutent, quoi. C'est une émotion qui se rejoint finalement avec un style différent, mais c'est quand même quelque chose que je raconte, quoi. C'est le travail qu'on a fait avec Dominique Pitoisé, qui est vraiment le metteur en scène, où on s'est enfermé.
Alors, on va en parler, mais
c'est vraiment ça, c'était d'aller chercher ce plaisir que j'ai puisque j'ai commencé par ça dans les one man show, quoi.
Sérieusement, là vous méritez un Molière.
Alors là, sérieusement, je n'aurais pas un Molière. Il faut appartenir à... Vous savez, il ne faut pas chercher à appartenir à une famille qui ne voudrait peut-être pas de moi, quoi. Vous savez, ça vaut mieux. Je suis encore un peu dans ce côté où on n'arrive pas trop à me situer encore.
Vous savez,
j'ai encore 30 ans devant moi.
Ça, ils n'aiment pas du tout.
Donc, sérieusement... Vous vous êtes enfermé avec Dominique Pitoiset dans un couvent, près de Venise.
Oui, oui, absolument. Ça, c'est tout à fait vrai. Dominique Pitoiset, c'est le metteur en scène. Ouais. Moi, je voulais absolument quelqu'un que je ne connaissais pas. Je n'avais pas envie d'avoir face à moi quelqu'un qui aurait été ému, peut-être encore une fois, par ma propre histoire, ou des événements où la vie vous touche et vous castagne en pleine course. Et là, le regard de Dominique Pitoiset, il m'a dit, il est professeur aux Beaux-Arts. C'est une star, hein, Dominique Pitoiset. Après, c'était très classe parce qu'il enchaînait avec une mise en scène à l'Opéra Bastille.
Oui, c'est ça, il a fait des grandes mises en scène.
Lui, c'était la première fois.
Mais à Bastille, il a dit, j'ai fait
Timsit. Oui, il est arrivé, il se l'est pété un petit peu là. Mais attendez, je vais le faire Timsit, c'est pas vous qui
l'avez. On se calme.
Mais c'est vrai que c'était impressionnant pour lui, comme pour moi d'ailleurs, on ne se connaissait pas. J'arrive à minuit à Venise avec la valise à roulette et puis les vaporetto, et on arrive dans un couvent où on est resté 3 semaines et demie enfermé. On a fait un premier travail sur le texte, c'était vraiment le premier travail à faire, c'est-à-dire quand même une adaptation.
Oui, qu'est-ce qu'on prend?
J'avais dit que je toucherais rien, que le moindre mot et tout ça, mais en même temps il a fallu travailler le texte parce que c'est un texte littéraire, il fallait en faire finalement un spectacle,
aller
l'amener sur scène et rendre service. Et c'est pour ça qu'on avait dit, vous avez dit, la maturité, c'était la maturité dans l'homme n'est pas encore là, mais au niveau de ce que j'ai appris peut-être en faisant ce métier, je me disais que je pouvais peut-être aborder un texte comme ça. Donc un texte qu'on aime, faut lui rendre service. Donc voilà, tout ce travail dans ce couvent, il n'y avait pas de moines, c'est un ancien couvent sublime,
transformé
à San Giorgio.
Ah oui,
voilà, qui
c'était un sofitel en fait.
Oui, d'ailleurs, j'allais faire gagner deux places aux auditeurs.
Les résidus au couvent, la chambre Timsit.
Non, pas du tout, c'était c'est une résidence, c'est, ça s'est transformé en fondation.
Ah oui, pour, résidence pour artistes.
Oui, absolument.
Ah, bien.
Pour les, alors là, c'est les, ça va la péter encore. C'est pour les experts en musicologie. Voilà. Oh. Nous, on avait trouvé grâce à Dominique Pitois.
Il a ouvert les portes.
Donc, vous êtes dans des petites cellules comme ça de travail, bien, ouais. Et c'est dans bien, un ça. Lieu qui est absolument
magique.
On en rêve.
Non, mais de Venise.
Ah ouais.
Ça pourrait s'arranger.
Le vendredi soir, c'était la quille.
Ah oui, voilà. De temps en temps, vous alliez place Saint-Marc.
Ouais. Le samedi, dimanche, ouais, chouette, le week-end. Ouais, ça n'est jamais arrivé.
Incroyable. Et bien, on va retrouver Patrick Timsit. On va parler de ce spectacle, Livre de ma mère, d'Albert Cohen.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous retrouvons Patrick Timsit, qui est à l'affiche du spectacle Livre de ma mère, adapté du texte d'Albert Cohen, jusqu'au 17 mars au Théâtre de l'Atelier, avant une tournée. C'est à 19h. Hein. Alors, on a un extrait d'Albert Cohen à apostrophe, et il parle de sa mère.
Ce qu'elle avait de particulier, ma mère, c'est qu'elle n'avait pas de moi. Son moi, c'était son fils.
C'est incroyable. Hein.
Ah, ouais, ouais. Ah, ouais.
C'est drôle.
Son ego, c'était oui. Moi, c'est ça. Ouais. C'est que tout d'un coup, effectivement, quand il dit qu'elle est attendre dans son obscurité, humblement attendre le retour de son fils, lui suffisait, tout en cousant, apprendre les noms des importants convives quand il revenait d'une réception, lui suffisait. Ouais. Admirer son fils de retour et en smoking, lui suffisait. Suffisait à cette âme, à cette âme si pure. Enfin, c'est vrai. Que tout d'un coup, la vie de cette femme, c'est cet amour comme ça dont on parle, un amour inconditionnel, mais c'est ces femmes qui vivent tout à travers, leur fils.
Oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'était fait pour vous, ça.
Oui, parce que, en fait, j'apprends aussi au public un petit peu les codes, c'est-à-dire que dès que vous êtes petit, elle pense à vous, elle vous fait un café au lait, elle met un petit dessin qu'elle a prévu à 5h du matin, mais il y a aussi sa photo à côté de la table. Je veux dire, c'est un travail qu'elle fait. Moi, ma mère, elle m'a déjà dit « Oh, c'est pas grave, mon fils, t'as oublié. Oui, maman, je suis arrivé comme ça, sans rien. Tu fleuriras ma tombe, c'est pas grave. » c'est fort, ça envoie du bois. C'est un travail de tous les jours. Hein. C'est full-time job. Quoi.
J'avais 8 ans, quand même. J'avais 8 ans, quand elle m'a dit ça.
Oui, bien sûr. Non, c'est pas grave, ne partage pas ta limonade. J'ai plus soif. Mais si, maman, je t'en supplie, bois cette limonade.
Mais du coup, on comprend, au fond, les que ça fait comme écho en vous quand vous avez lu ce texte il y a 30 ans.
Oui, c'était vraiment une découverte parce qu'en plus, moi je suis tombé par hasard, je ne connaissais pas ce texte. Je cherche des textes que je peux faire dans un atelier de théâtre et puis je tombe sur ce bouquin, puis je me rends compte que non seulement j'apprends des bouts par cœur et puis qu'après je me dis on a rendez-vous, toi et moi, je parle au texte sur scène et c'est vrai que tous ces codes je les connais, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'émigration, cette famille qui déboule de Grèce, qui arrive à Marseille. Oui. Moi, c'était l'Algérie. Oui. On aurait pu très bien s'arrêter à Marseille. Mon père voulait s'arrêter à Marseille. Mais ma mère avait de la famille à Paris. Elle a gagné. On s'est retrouvé à Paris. Et voilà donc le regard de l'autre. Cet
isolement. Donc il y a des correspondances. Il y a des correspondances entre son histoire et vous. Et puis, pardon, mais on ne peut pas s'empêcher. Il y a aussi le côté maman juive, quand même, chez Albert Cohen. C'est-à-dire une mère un peu castratrice, étouffante,
une mère trop présente et étouffante, et puis tout d'un coup qui fait que à un moment la femme de sa vie c'est elle, donc après beaucoup de problèmes avec les femmes, c'est un homme aussi qui a eu une vie comme ça, qui était quand il dit péché de vie, ma mère est morte mais je regarde la beauté des femmes, péché de vie, et c'est vrai
qu'il d'ailleurs qu'il n'a jamais écrit que pour les femmes,
mais je pense que les ayants droit à Karine Jacobi, pour la citer, qui m'a vraiment aidé, qui m'a fait un très joli mot sur l'adaptation qu'on en avait faite, m'a dit ne sois pas non plus trop poli. Enfin, si j'avais un truc à te dire, c'est parfois le texte de Cohen étouffe ce qu'il adapte.
C'est vrai qu'il peut, quand on le lit à plat, il peut être étouffant. Vous l'avez rendu aérien, beaucoup plus. Donc, on va directement à l'émotion. En plus, la mise en scène est incroyable. Parce que Vous êtes là, il y a un grand bureau, il y a un écran. Sur cet écran, on voit des images. Vous y êtes hein, aussi, c'est des choses de vous.
Personnel,
hein.
Oui,
c'est très intime.
C'est le spectacle qui a été le plus intime.
Oui, c'est vrai, c'est ce que
moi,
vous écrivez vous-même.
Tout en secret. Oui, c'est comme si je me relisais de la veille. Quoi. Ouais. Et on voulait absolument que ce soit un spectacle qui ne soit pas un étau. Je pense que prendre le public en otage pour le faire souffrir sur des émotions, ça n'aurait pas été mon truc. C'est, là encore, quand vous me dites du rire aux larmes, oui, c'est vraiment qu'on apprend quand même qu'on donne du plaisir. Et même la tristesse, même si les gens pleurent, ça reste quand même une émotion de spectacle et non pas un torsionnaire qui vous prendrait comme ça.
Heureusement qu'on prend du plaisir.
Dans les boyaux.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Patrick Timsit. Le livre de ma mère, mais on va parler des grands-mères avec Joël Goron.
Les immeubles de Joël Goron.
Mais oui, je vous rappelle cette date parce que 2 Français sur 3 ne connaissent pas la date. Dimanche prochain, c'est la fête des grands-mères. Alors faisons d'abord un peu le point parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, ils ne réalisent pas une chose, c'est qu'une grande partie des grands-mères sont des mamies boomers. C'est la génération où tout a changé. J'insiste pour ceux qui ont encore en tête l'image d'une grand-mère, genre une grosse dame avec une blouse à fleurs, un petit chignon en crotte de bique, qui fait des confitures et yoyote dans son coin en chantant « Non, rien de rien, je ne regrette rien ». Si c'est ça que vous avez dans la tête, vous avez tout faux. Je vous signale qu'aujourd'hui, quand on devient grand-mère, pour la première fois, c'est à 52 ans. Si ça vous dit rien, 52 ans, je vous rappelle que Madonna a 60 ans aujourd'hui. S'il y a une chose qui a beaucoup changé pour la grand-mère d'aujourd'hui, c'est, attention, c'est sa sexualité. Eh oui! Ouvrez pas la bouche comme ça, Stéphane.
Quel enchaînement.
Je vois pas la bouche.
Il est en train de se dire, mais où elle va là encore? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter?
Une
femme quand même, c'est chez la mamie d'aujourd'hui, que c'est une femme qui a bénéficié de la pilule, de la loi sur l'avortement, à qui on a proposé des hormones pour niquer les délices de la ménopause, même qui peut fréquenter des grands-pères qui préfèrent le Viagra à la tisane.
Et puis ils ont connu les temps.
Imaginez le changement.
On a une sexualité niquée Viagra.
C'est pas tout à fait la même dame que
j'ai. Votre infirmière va vous ramener dans votre maison tout à l'heure.
Mais sécurité.
Ils ne sont pas possibles.
Elle peut pas, elle est déjà enceinte.
Vous savez qu'un jour, vous allez vous en taper des grands-mères. Bon. Oh.
Non, ce sera pas vous, en tout cas. C'est déjà fait, hein. Ça s'appelle...
Oui, mais on a encore le choix.
Hein. Vous voyez, vous prenez de l'âge.
Oui,
qu'est-ce que vous croyez?
Je suis
grand-père. Vous allez toujours être avec des gamines de 12 ans et demi?
Non, mais non.
Mais j'ai des petits jeunes.
C'est Grammy bon, I like, c'est Grammy
peux continuer.
I like to fuck.
Sans compter que cette grand-mère, elle a travaillé, elle a voyagé, elle a même souvent divorcé.
Et elle a connu la libération sexuelle.
Mais oui, tout ça en une seule génération. On peut dire que la nouvelle grand-mère, c'est l'invention du 21e siècle. Et ne vous y trompez pas, parce que à toutes ces grands-mères, il y a des catégories différentes. Alors il y a par exemple aujourd'hui la grand-mère indigne. Elle n'en a rien à foutre de ses petits-enfants. Pourquoi ? Elle estime avoir déjà élevé ses propres enfants en travaillant, et maintenant qu'elle est un peu libre, elle préfère aller crapahuter en randonnée avec ses ex-fiancés ou dîner avec ses copines.
C'est un peu vous ça.
Mais non, je suis une très grand-mère.
Très gentille.
Oh, arrêtez de me critiquer.
À l'ancienne.
Arrêtez de dire qu'elle est gentille, elle
n'aime pas ça. Alors, l'intermittente, c'est quoi l'intermittente grand-mère? Si elle habite loin de chez vous et accueille volontiers ses petits-enfants pendant les vacances scolaires, où elle se transforme alors en cheftaine de randonnée, pique-nique et autres expéditions culturelles avec visite du musée du sabot ou atelier fabrication rillettes. C'est une super mamie, mais malheureusement pas très accessible. En revanche, elle est la reine sur Internet et pratique Skype ou FaceTime avec virtuosité.
FaceTime.
Quant à la grand-mère pompier, c'est quoi?
C'est
celle qu'on peut appeler quand le petit a la rougeole et qu'on n'a personne pour le garder. Non seulement elle arrive dans le quart d'heure qui suit, mais quand vous rentrez le soir, telle une tornade, elle a fait 3 machines à laver, rangé en pile et par couleur les t-shirts qui n'avaient jamais croisé un fer à repasser et préparé les potages pour 3 jours.
Elle est bien, elle.
Elle est bien, hein.
Ah, on aime bien.
Je suis un peu comme
c'est un peu
ça.
Joueur,
hein, ça
un peu
vous joueur, embête, ça.
Ouais,
en fait, qui est la mamie idéale? Écoutez bien tous, parce que c'est très important. C'est une définition de Françoise Dolto. Écoutez bien, présente quand on a besoin d'elle et pas là quand on n'en a pas besoin.
C'est
à
pas
méditer,
mal.
Les amis.
Si j'ai bien compris, en conclusion, pour la fête des grands-mères, il faut vous offrir un sextoy. Ouais. C'est ça.
C'est fait.
Eh ben, qui vous l'a offert ?
L'année prochaine, on vous donnera les piles.
Les petits-enfants lui ont offert.
Merci
beaucoup, Joël Goran. On va retrouver Patrick Timsit et le vrai faux de l'invité.
Vous écoutez RTL.
Le vrai faux de l'invité.
Alors, le vrai faux de l'invité, on vous donne des informations sur Patrick Timsit, vous dites c'est vrai, c'est faux, et puis il vous confirmera ou infirmera.
Qu'est-ce que je gagne
Non mais eux, gagnent, c'est eux qui gagnent notre admiration. Alors,
des informations sur sa mère, ça aurait été plus
Patrick Timsit s'est découvert une passion pour le jazz manouche, et il lui arrive de passer des nuits entières avec des amis forains pour écouter et gratter leur guitare façon Django Reinhardt.
Oui, vrai.
Ah oui, c'est vrai.
Des amis forains ?
Qu'est-ce que c'est, mes cernes qui vous font ? Et pourquoi est-ce que j'ai sous les yeux ? Oui, vrai. Nuit blanche, moi j'y crois.
Tout vrai.
Sous la grande roue. Du vrai, oui. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, il y a un morceau de Tchavolo Schmitt dans le spectacle, à la fin, la dernière guitare. Et j'ai même envie. Alors, ce spectacle, j'ai envie de le décaler après. C'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai joué, je pense que ce sera jusqu'à décembre 2018. Je ferai volontiers. Ça y est, on va mettre ça sur pied avec le producteur, Glusman. Encore des gens que je connaissais pas là vraiment sur ce spectacle, y compris la production, j'ai débarqué et je voudrais faire une petite tournée avec quatre joueurs de jazz manouche. Et là les forains, je les connaissais bien puisqu'on passait des nuits, c'était comme sous l'occupation, c'est-à-dire qu'à minuit ou une heure du matin dans les Tuileries, l'électricité était coupée, paf, ils mettaient en route les générateurs et on continuait jusqu'à 5 heures du matin à l'intérieur de la fête foraine, à l'intérieur des jardins, et on sortait avec des échelles qui étaient planquées et on passait les grilles.
Pas les CRS à 6h du matin.
Donc il y a quand même toujours ce côté pas d'horaire, en dehors un petit peu de...
Un peu interdit aussi.
Ah bah oui.
Ah, le danger.
Interdit.
C'est ça l'interdit. Patrice. Alors vous savez que Patrick a joué le rôle de Landru.
Oui.
Et il vient d'acheter justement la maison de Landru à Gambé. Et pour en faire peut-être un musée du crime.
Il va changer la chaudière, je crois.
Oui, mais
sinon, il garde tout
les la cuisinière. Le musée de la chaudière.
Non, faux.
Ouais, faux, absolument.
Mais il y avait une petite envie quand même.
Non, aucune. J'ai même pas visité.
C'est impossible.
Mais c'est passé récemment la télé Landru, que vous étiez flippant. Hein.
Ouais, c'était une rencontre avec Pierre Boutron. Ça aussi, quand on voit un scénario. J'ai pas fait beaucoup de téléfilms, non pas que. C'est pas par mépris, mais simplement, je me dis, bon, y a des comédiens, faut les prendre. Mais quand on voit arriver Désiré Landru, décrit sur un scénar, là, je pouvais pas laisser passer ça, quoi. Ouais. C'est cette envie de côtoyer les femmes, quoi.
C'est ça.
Il aurait été. Je sais pas, est-ce qu'il aurait été dans Balance ton porc
Il l'aurait mangé.
Il n'y a plus personne pour balancer.
Oui, cuisine
contre. Balance les os.
Les recettes de Landru.
Ah,
elle était invendable, la maison, en tout cas. Ce qui est vrai, c'est que. Mais parce qu'elle appartenait à Landru. Quand les gens apprenaient ça, ils ne pouvaient pas.
À l'époque,
maintenant, plus personne ne sait qui est Landru. Donc, c'est plus facile de. Quand il était agent immobilier, il était agent immobilier.
Oui.
Il y a quelques années, il a vendu des appartements à Nicolas Sarkozy et à Gérard Jugnot.
Oui, je crois que c'est vrai, ça.
Une petite studette pour Monsieur Sarkozy. La définition de la studette par Patrick Timsit dans ses premiers spectacles était formidable.
Là, c'était mon premier sketch. Hein. Comme je sortais de l'immobilier, c'était ça. J'avais inventé la moquette table. La moquette table. Oui, c'était la. Oui. Plus l'étage est élevé, plus c'est. Studette ensoleillée, c'était sans ascenseur. Calme, plus c'est calme, et plus le mur d'en face est près de ta fenêtre. Et il y avait le toilette douche.
Je m'en rappelle très bien.
Voilà, non, j'ai pas vendu ni à Gérard Jugnot ni à Sarkozy d'appartement.
Non, ils nous ont
pas
menti,
assez fort. J'aurais jamais pu les avoir.
Par contre, eux, ils m'ont vendu des trucs.
Oui, ça, c'est sûr. Attention, qu'ils nous en ont vendu. On peut pas non plus mélanger Gérard Jugnot avec Sarkozy qui est
extrêmement
fort.
En termes de vente.
Pendant quelques années, avant de monter sur scène, Patrick était assez superstitieux. Alors, il avait plein de gris-gris et il se frottait même le corps avec des gousses d'ail. pour éloigner notamment les pannes de lumière et tout ça. Mais comme il y avait quand même des pannes, il a arrêté de se frotter le corps avec des gousses.
Mais il a bien vu qu'il n'y avait personne sur les deux premiers rangs, il a arrêté.
Ça me rappelle l'un de vos sketchs.
Alors oui, c'est vrai que ça aussi, ça m'inspirait.
Non, faux.
Alors, non, c'était vrai, mais pas tout le corps. Pas tout le corps, c'était genre une petite tradition, vous m'avez dit, les Italiens, les comédiens italiens, avant, ils se frottaient les parties, on peut dire. Les boulets. Les boulets. J'ai appris que ça s'appelait les boulets. Parce qu'une petite fille, elle disait, oh, elle caressait un mouton, c'était un ami qui disait ça. Et elle disait, oui, non, vous avez raison d'avoir peur. Elle caressait le mouton et elle disait, oh, c'est doux, c'est doux. Et il se rend compte que sa petite fille est en train de caresser les couilles du mouton. Quoi. Alors lui, il n'a pas dit les couilles, il a dit les boulets. Elle caressait les boulets. Elle disait, qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est doux. Donc, non, alors c'était quoi la question? Sauf qu'après le premier bide, je me suis dit, mais attends, j'ai tout bien fait. La pâte de lapin, là et tout ça, je me suis dit, non, travaille le spectacle. Arrête la connerie. C'est pas là qu'il fait un spectacle.
Alors, bravo. Dans cette émission à la bonne heure, nous avons une chance maintenant de recevoir en direct pour chanter en live dans le studio Pomme, qui interprète une chanson de son dernier album, De là-haut.
Thank you.
Bravo. Quelle voix magnifique, hein. Pomme, on va la retrouver dans un instant, le temps qu'elle s'installe. Voilà, et on va retrouver Pomme avec Patrick Timsit dans À la bonne heure, à tout de suite.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Patrick Timsit, le livre de ma mère au théâtre de l'Atelier avant une tournée dans toute la France. C'est à 19h, hein, faut pas se tromper, 17 mars, mais Pomme, on a entendu sa voix, on est bouleversé aussi. On vient d'entendre De là-haut, un des titres de votre album, à peu près. C'est le titre, hein, de l'album, c'est pas moi qui fait d'à peu près.
La phrase n'a aucun sens.
C'est Jean-Michel. Alors, et d'ailleurs, on a trouvé une correspondance parce que vous imaginez votre enterrement.
Complètement.
À 21 ans, on pense déjà à la mort.
Beaucoup, ouais.
Ah oui, beaucoup. Oui.
Mais en fait, j'y pense depuis très jeune et je pense qu'on y pense tous un peu, mais plus ou moins ouvertement. Et puis, je pense que j'ai beaucoup écrit dans cet album sur le temps qui passe et la mort parce que j'avais envie d'essayer de le désacraliser. C'est un truc qui me touche beaucoup depuis jeune. Mm-hmm. Et voilà. Donc, et puis, qui n'a pas imaginé son propre enterrement?
Oui. Et qu'est-ce que vont faire les autres?
Qu'est-ce que vont dire les gens? Est-ce qu'ils vont me trouver... Est-ce qu'ils vont dire des choses atroces ou des choses gentilles?
Ça ferait une bonne télé-réalité, ça, d'ailleurs. Je suis bien d'enterrement, parce que je me dis de toi.
Je trouve ça bien, l'enterrement. Au moins, je me dis, ça me fera une standing ovation.
Mais alors, ce qui est très particulier, à peu près, c'est donc votre premier album.
Oui.
C'est une formidable aventure. Hein.
Oui.
Mais contrairement à beaucoup de jeunes chanteurs et chanteuses français, en ce moment, vous écrivez, vous voulez écrire en français. D'abord parce que vous aimez la langue, vous aimez les mots, vous aimez...
Oui, je suis très inspirée encore aujourd'hui par beaucoup d'artistes et de chansonniers et de chansonnières françaises. Et puis j'ai beaucoup lu aussi, j'ai beaucoup lu de poésie, j'ai fait des études littéraires, enfin un bac littéraire. À ce moment-là, j'aimais pas trop lire parce que c'est tellement imposé que... Mais juste après, en sortant du lycée, j'ai lu des poèmes à outrance, quoi. Genre j'ai lu Paul Éluard toute la journée, j'ai lu beaucoup de choses en français. Et puis je suis toujours aussi fascinée par des artistes qui chantent en français. C'est vraiment ma langue première et donc c'est la meilleure manière pour moi d'exprimer les choses, quoi.
Et par exemple quels artistes?
Par exemple Barbara.
Barbara, bien sûr. Cœur de pirate. On dit que Cœur du pirate, qui est francophone plus que française, vous inspire aussi.
Ouais, en fait, adolescente, j'écoutais beaucoup Cœur de pirate. Maintenant, c'est marrant parce que du coup, je la croise souvent puisqu'on fait un peu la même chose. Mais oui, j'ai écouté beaucoup. C'est important pour moi de chanter en français, d'écrire en français. Et tout simplement parce que la poésie en français est en tout cas pour moi plus naturelle qu'en anglais, quoi.
Vous aimez les bêtes comme les scarabées, parce que oui, sur la pochette de votre album vous avez le visage mangé. Vous êtes, il faut le dire pour ceux qui écoutent la radio, vous êtes absolument ravissante.
Et sur la pochette, vous
mettez des d'horribles bêtes qui vous mangent le visage.
Eh bien c'est complètement voulu et
Ils sont pas arrivés par
hasard.
C'est un studio photo très pourri, infesté.
Dans le 11e, c'est mal entretenu.
Non, mais en fait, justement, je pense que j'avais pas forcément envie de mettre en valeur mon visage ou mon physique, et j'avais envie de contrer ça, et puis j'avais envie d'un aspect terrien dans un studio de photos assez froid et blanc, et donc on a fait ça aussi avec des escargots. Et en fait, moi j'aimais cette idée de mettre en valeur des choses qui répugnent, en fait, justement. Et de contrer cette image là que
parce du
que
l'amour de la beauté,
bah ouais, du truc la... que j'ai, parce que bah voilà, je suis
vous
jeune
n'y pouvez
et que
rien,
et
je
que
sais, je sais.
Mais ils sont très forts, les scarabées, parce qu'ils portent leur poids beaucoup plus que leur poids, hein.
Et ben c'est ça aussi qui est très fascinant. Là c'est des cétoines dorées, c'est des scarabées verts un peu qui brillent. Et en fait, le scarabée, ouais, c'est un insecte. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut complètement l'écrabouiller en une seconde. Et puis en même temps, il peut porter 8 fois son poids sur son dos. Et je me sens un peu comme ça aussi, quoi.
Scarabée poney.
Complètement.
N'écrabouillez pas les scarabées, c'est tout ce que je vous demande. Alors, vous êtes en tournée. Oui, je prends, on fait des causes pour toutes les bêtes.
Mais c'est important d'avoir des engagements forts.
On va vous en offrir, d'ailleurs.
Ça vous honore.
C'est pour les couloirs de Hérisson et les passages à crapaud. Mmh. 28 février à Saint-Martin-d'Air. Le 10 mars, vous êtes à Rambouillet.
Ouais.
Le 16 mars, au Festival Acoustique, le Poire Survie, c'est ça?
Ouais,
le
Poiré.
Le Poiré.
Je suis jamais allé là-bas.
Je ne connais pas non plus.
Ils sont en national en football.
Voilà.
Le poing est sur lui. C'était l'information supplémentaire.
Là, Patrice dévoile un pan méconnu de sa personnalité. Il ne vibre que pour le foot. Vous êtes à Léognan le 23 mars. J'espère qu'on vous servira un bon vin. Châtenay-Malabry le 29 mars. Isaac.
Oui.
Saint-Sauveur-Mont-Lorgis, c'est le 19 et 20 avril, avant Cognac, Les Arcs et La Cigale à Paris le 20 juin. Et bien on vous y retrouve, Pomme.
Mais j'espère.
Voilà.
Merci beaucoup.
Elle est mignonne à croquer, mais c'est normal pour une pomme.
Émouvant, c'est vraiment
merci.
Et en tout cas, vous avez une voix.
Eh bien, merci.
On n'a pas fini de vous entendre. Merci on va beaucoup. Retrouver Patrick Timsit dans un instant, et puis Régis Maillot qui nous interroge sur l'actu.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Patrick Timsit. Vous suivez un peu l'actualité, Patrick, ou vous êtes, quand vous êtes sur les planches du théâtre de l'Atelier, vous êtes extrait du monde?
Non, c'est devenu un réflexe. Comme je l'ai fait longtemps et que je le fais souvent pour mes spectacles, c'est pas être surpris le soir quand il s'est passé quelque chose pendant la journée, des réactions du public par rapport à ce que je dis. Donc je continue. Je m'informe.
C'est bon, on va vérifier avec l'interro Maillot.
L'interro Maillot.
Eh oui, comme vous le soulignez tout à l'heure, cher Stéphane Bern, c'est la journée internationale de l'ours polaire. Bienvenue à la maison, Booba. C'est vrai qu'on réunit toutes les conditions climatiques pour que tu ne sois pas dépaysé. Alors, on commence par un point météo, Patrice Kermouze. Vous l'avez remarqué, ça caille en France. Je m'adresse à nos auditeurs ultramarins de Guadeloupe qui se lèvent incrédules depuis deux jours en slip de bain à regarder la télévision sur TV5 Monde. On voit des présentatrices météo habillées avec des jupes ras-le-mercure qui nous informent que l'anticyclone russe nous a apporter un froid polaire, tandis que des envoyés spéciaux en Canada Goose nous expliquent la différence entre les températures réelles et les températures ressenties. Alors pour information, température réelle, c'est la température sous-abri, la température ressentie, c'est la température sans-abri. C'est la définition la plus nécessaire pour qu'on puisse donner actuellement. D'ailleurs, pour sensibiliser l'opinion sur le sort des sans-abri, des élus d'Île-de-France ont décidé une opération. Laquelle? Plusieurs possibilités, Patrice Kermouze. Ouvrir des centres d'hébergement, supprimer la taxe d'habitation pour les SDF, réquisitionner les camps de naturistes d'Anne Hidalgo pour accueillir des SDF, ou dormir dehors avec des SDF.
Ah, peut-être dormir dehors avec des SDF.
Exact, bonne réponse. Je ne sais pas si ça va beaucoup les aider.
J'aurais souhaité la première, moi.
Je pensais même que c'était un gag.
C'est moins démago, mais
je viens partager votre misère, mais je ne peux rien pour vous.
C'est l'époque, ça pense sensibiliser. Il faut parler de soi pour sensibiliser.
Ce qui m'a touché le plus en ce moment, c'est qu'il y a des citoyens qui ouvrent leur propre maison.
Exactement.
Et qui logent.
Et qui ne sont pas les plus riches, généralement.
Ah oui, absolument.
Et qui font pas de
discours du pape François, quoi.
Ils font pas de communiqué AFP pour les.
N'ayez pas peur.
Stéphane Bern.
Oui, c'est bon.
Vous savez qu'on devient des spécialistes de la météo ces derniers temps. Tout le monde est au courant que le froid nous vient de Russe, un vent de Sibérie. Ça nous rappelle cette chanson de Michel Sardou, vous savez.
Toi, Vladimir Ilitch, si tu es le prophète.
Souvenez, il y avait un vent de Sibérie souffle sur la Bohème. On va jouer à N'oubliez pas les paroles. Vous êtes prêts, Stéphane Bern?
Allez.
Un vent de Sibérie souffle sur la Bohème.
Un vent de Sibérie souffle sur la Bohème. Les femmes sont en colère.
Eh oui, les femmes sont en colère, mais où ça? Aux portes des moulins, aux portes des radins, aux portes de Christine Boutin.
Des moulins.
Vous êtes certain?
Je crois, oui.
On vérifie.
Les femmes sont en colère aux portes des moulins.
Bravo. Pas facile, parce que Christine Boutin, ça aurait pu être pareil. On continue avec Michel Sardou, toujours cette belle chanson.
Des bords de la Volga au delta du Niémen.
Oui, Patrick Timsit, le temps s'est écoulé.
En mène. Donc ça peut être imen, ça peut être.
Amen.
Ah,
ouais.
C'est pas en M. Le temps s'est écoulé, c'est pas. En E. Il a passé pour rien. C'est en 1, pardon, parce qu'il y avait une rime avant. Il a passé pour rien, il est déjà demain, oulala, c'est déjà le matin. Il a passé pour rien, il est déjà demain, oulala, c'est déjà le matin.
Alors, on élimine la troisième.
Oui. J'irai la deux.
La deux, oui, la deux. Je la sens bien, la deux. Oui.
Va vérifier.
Le temps
On s'est gagné, pas besoin de vérifier.
Il a passé. Mais faut pas, c'est pour rien. Ah, ah non, ouais, c'est la une.
Vous êtes éliminé, Patrick.
Mais c'est moins bien, j'aurais préféré demain. Oui. On va le proposer à Michel Sardou pour qu'il corrige ça. Vous savez qu'il m'a souvent écouté, je suis souvent écouté, dans le monde entier.
Le lac, vous lui avez dit.
De mon avis, moi.
C'était le lac du Panama. Oui, le lac du Titicaca. Il a dit Connemara,
c'est mieux.
Vous avez dit les balles populaires au lieu des balles du samedi soir.
Il vous doit sa carrière, cet homme-là.
Comme beaucoup.
Comme beaucoup.
Je veux pas me vanter, mais beaucoup.
Patrick Bruel, ses premières. Casser la voix, il voulait pas. C'était casser les noix. Tu dis non.
Non, moins bien, moins bien. Casser la voix.
On continue avec Michel Sardou.
Aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous.
Joël Gouron.
Oui.
Léline, relève-toi, ils sont devenus fous.
Ah oui, c'est
ou
ça.
Staline, sort de ce corps, j'ai mal aux deux genoux.
Première.
On vérifie.
Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Léline, relève-toi, ils sont devenus fous.
Eh ben, bonne réponse, on continue. Au chapitre communication et politique, saluons Aurore Berger, qui connaît bien le sujet. Aurore Berger, c'est cette femme politique qui s'est fait connaître en retournant sa veste et remarquée en parant de sa robe. C'est la définition de la politique aujourd'hui. Aurore Berger qui a fait l'objet de commentaires sexistes, donc relous, sur les réseaux sociaux après son passage chez Ardisson, où elle s'était présentée portant une robe avec peu de tissu. De ces quelques commentaires anonymes, on en a fait une information. Aurore Berger en a fait une polémique. Ça, c'est la nouvelle définition du journalisme. Elle a notamment fait un tweet pour dire qu'elle était choquée et explique que sa tenue dans un talk show n'est pas un sujet, à telle enseigne qu'elle est venue s'exprimer dessus hier soir dans un autre talk show.
C'est exact.
Voilà. Lequel ? C'est à vous ? TPMP, quotidien ou le jeu de TF1 ?
Chacun sa polémique. Là, c'était c'est à vous.
C'est à vous. Exactement, ouais. C'est-à-dire, on vient s'exprimer dans. Peut-être que demain, elle viendra dans un autre talk show.
Jean-Michel Apathy lui a fait la leçon.
Bah, c'est
lui
a
fait la leçon. Ouais.
C'est la Fashion Week, je l'espère, peut-être.
Qu'est-ce que tu lui as dit, Apathy ?
Et lui, il a bien mal choisi sa tenue, ouais, quand même.
Ah, quand
on va quelque part.
Et en revanche, sur TPMP, on évoquait un autre sujet vestimentaire. C'était ni la kippa, ni le strict, ni le port de nouilles dans le slip, mais le voile. Donc, finalement, en France, en ce moment, c'est soit trop court, soit trop long.
Merci beaucoup, Régis Maillot. Allez, on retrouve Patrick Timsit pour le livre de ma mère dans un instant. Et puis, Eric Dussard fera son zapping télé. À tout de suite.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel sur RTL.
Là où il y a de la lumière, il y a toujours de l'ombre. Elton John, Gérard Depardieu, les Sœurs de Neuve, mais aussi Amy Winehouse ou La Calas, La Gloire et ses fêlures. Chaque samedi, en toute confidence, je vous raconte ces extraordinaires trajectoires où le succès cache souvent des pièges, des doutes ou des secrets d'enfance, les célébrités et l'envers du décor. C'est ensemble et c'est confidentiel sur RTL.
Confidentiel, présenté par Jean-Alphonse Richard, tous les samedis à 14h sur RTL.
Midi et presque 4 minutes sur RTL. On retrouve Stéphane Bern, à la bonne heure.
Absolument, nous sommes là, chère Nuena.
C'est bien.
Avec Patrick Timsit, qui est sur scène au théâtre de l'Atelier jusqu'au 17 mars à 19h, avec le livre de ma mère, adapté du texte d'Albert Cohen, et avec un metteur en scène qui est Dominique Pitoiset. Et à partir du mois de mars, vous allez repartir sur les routes de France, j'imagine.
Oui, absolument. Il y a une petite tournée comme ça. Je serai à Nîmes, à Marseille, à Perpignan aussi. C'est,
là où il fait chaud.
Il me reste encore. Voilà. Là, maintenant, on a décidé de
choisir en fonction de la météo.
Et après, je repars en tournée, effectivement. Là, il y aura une grosse tournée entre novembre et décembre.
Et décembre, très bien.
Et après, même en janvier, maintenant, ça se prolonge. J'aurai à Lyon. Je viens de l'apprendre, là, au Célestin. Donc,
Oui.
En plus, vraiment, avec ce spectacle, ça me donne aussi non seulement l'occasion de rencontrer ce public sur quelque chose de plus dramatique. J'ai pas l'impression. C'est un public qui me découvre dans ce domaine, mais qui
vous connaissez
quand même régulièrement. J'ai l'impression.
Que, les initiés, en plus, peut-être à quelque chose qui les aurait pas forcément intéressés.
Ah oui, ça c'est vrai que tout d'un coup, ils me disaient qu'ils se voyaient pas comme ça aller au théâtre. Comme comme on dit. J'ai retrouvé. C'est incroyable ce qui se passe aussi après le
après
spectacle.
Après le spectacle, oui.
Les dédicaces,
les gens sont tellement émus.
Ah ben ouais, je vois des gens.
Mais c'est une émotion positive.
Dans les bras,
oui.
Quoi.
Ouais, et c'est une émotion très positive parce qu'évidemment, on parle de ce qu'on a tous, c'est-à-dire une mère.
Ouais. Vous savez que j'ai même eu une dédicace où la personne vient me voir avec le livre et me dit j'ai enterré ma maman ce matin. Ça m'a fait un bien fou. Vous vous rendez compte? Ah ouais, oui. Voilà, si vous pouvez me mettre un mot. Évidemment, mais pas bisous, Pierrot.
Ça fait un peu la pression, ça.
On s'applique hein, pour la dédicace.
Bon, difficile de faire la transition, mais on va retrouver.
Bah, c'est l'émotion aussi.
C'est l'émotion.
Voilà, Claude-François. Beaucoup d'émotion qui fait du bien.
On va rendre hommage aux disparus, et notamment à Claude-François, avec Éric Dussard.
Trop cher en ce moment, le pauvre.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors on commence, Eric, avec un documentaire diffusé ce soir sur W9.
Et oui, un documentaire qui sera consacré à un sujet absolument inédit à la télé, puisqu'il parlera de Claude-François. Ça faisait bien quoi, 3 jours qu'on n'avait pas eu un hein. Alors, celui-ci s'appelle « Les derniers secrets de Claude-François ».
Ah oui, il y en a encore.
Ah bah, il y a quelques secrets, vous allez voir, on commence quasiment dans le surnaturel, puisqu'on y apprendra notamment que la veille de sa mort, il y a 40 ans, le 11 mars 1978, eh bien Claude-François était en Suisse, et qu'il avait un fort mauvais pressentiment.
Claude-François sent-il la mort rôder ? Une chose est sûre, depuis plusieurs semaines, il perçoit des signes inquiétants.
Il rêvait à la mort. Il avait l'impression qu'une dame blanche arrivait dans sa chambre.
Et ce séjour en Suisse ne fait qu'attiser ses craintes. Car ce pays provoque chez lui une peur irrationnelle qui remonte à son enfance.
Ses parents lui avaient dit que le diable était en Suisse.
Claude-François décide alors de quitter la Suisse pour rejoindre la France. Une décision précipitée qui sera lourde de conséquences. Le lendemain à Paris, Claude-François s'électrocute dans la salle de bain de son appartement.
Ah, c'est ballot, hein. Il a été mal éclairé sur ce coup-là, si j'ose dire.
Non, mais incroyable, la voix et la musique qu'il y a derrière. C'est pas crédible.
On tremble, hein.
On avait fait un pastiche d'émission comme ça, et on avait dit, mais sur le même ton, elle fait l'amour avec des fantômes. Ça, n'oubliez pas, restez avec nous, le fameux.
En plus, l'histoire de diable séquence, en Suisse, ses parents avaient dû dire que c'était un paradis fiscal, il l'a tout compris de travers.
Avec cette voix
c'est
comme
bête.
Ça, oui.
Alors, je sais ce que vous vous demandez, Stéphane. Est-ce que ce documentaire sera aussi élogieux que tous ceux qu'on a vus à la télé ces derniers jours? Eh bien, soyez rassurés, la réponse est oui. Il s'agira, là encore, d'un bien bel hommage à Clo-Clo.
Travailler pour lui, c'était pas de la tarte. Hein.
Ses colères légendaires, Claude-François les passait surtout après les spectacles. Lorsqu'il convoquait musiciens et Claudette directement dans sa loge.
C'était là le fameux tiercé, c'est-à-dire que 3 personnes étaient appelées, le batteur qui avait loupé un enchaînement, le bassiste qui était parti un ton en dessous ou au-dessus. On était obligé de reconnaître chacun qu'on avait fait une erreur.
Ça montait en puissance très vite et il piquait des colères terribles. Et donc il pouvait dire des choses très désagréable.
Ah, t'es un batteur de merde, et tout ça, je veux plus jamais te voir, et machin.
Bien bel hommage. Il avait l'air sympa, hein. Patrick Sébastien, ça rappelle ce JT qui vous avait beaucoup marqué, je le sais, le jour de la mort de Léon Zitrone, où il n'y avait eu que des témoignages négatifs, en fait. On devait le rendre hommage, et puis tout le monde l'avait désingué.
Et ils n'y arrivaient pas à trouver une image, une situation où on parlait de Léon Zitrone, oui, sympa. Et celle qui m'avait touché aussi, c'était quand il disait que sur Interville, il avait cassé les lunettes d'une petite fille. Il s'en foutait complètement d'une dédicace. Mais quand il a appris que c'était la fille du maire, il a passé l'après-midi à rechercher la petite fille. C'était terrible qu'il était sale, les radins.
Un bel hommage.
Ouais, mais il avait des tâches incroyables. On savait ce qu'il avait mangé à midi quand tu le croisais dans l'après-midi.
Et tout ça.
Il suffisait de regarder la cravate.
Et tout ça le jour de sa mort. Hein, dans le JT, le jour de sa mort.
Oui, tu t'imagines. Bah, oui. C'est-à-dire qu'en plus, ils étaient sur la retenue. Quoi.
Et bien là, vous savez quoi? C'est pareil avec Clo-Clo, tout le monde se lâche. Alors, il sera aussi question dans ce documentaire du petit protégé de Claude-François à ses débuts. Vous savez, Alain Chamfort, qui avait signé ses premiers disques et il faisait même ses premières parties. Enfin, quand Claude-François le laissait chanter. Parce que, vu que Claude-François était jaloux du succès d'Alain Chamfort, il donnait des consignes apparemment aux techniciens.
Ces instructions visent à carrément saboter les concerts d'Alain Chamfort. Gérard Louvain, qui produisait les spectacles du jeune chanteur, en témoigne aujourd'hui.
C'était terrible, il faisait débrancher les prises. C'est-à-dire qu'à chaque concert, il y avait un problème. Parce qu'il était jaloux, il voulait que lui, c'était lui la vedette. C'était à la patinoire de Genève, j'avais mis des personnes à toutes les prises et tout. Je dis Alain, là, t'inquiète pas, y a aucun problème. Troisième chanson, un mec qui monte sur scène, qui prend le micro de Chamfort et qui dit « Mesdames, messieurs, allumez la salle, alerte à la bombe ». J'avais fait une alerte à la bombe. À chaque fois, ça coupait un quart d'heure. Donc le pauvre Alain, après, il ramait. Et puis l'autre, il avait un succès terrible derrière.
Mais quel bel hommage à Claude François. Donc, on résume, il était parano, tyrannique, fourbe. Alors, on a tout. Ah non, pardon, j'ai oublié. Ah, il était également pervers.
Ben oui.
Ça aussi, ils en parleront ce soir.
Derrière l'icône en apparence irréprochable, nous allons vous dévoiler un homme aux secrets inavouables.
Moi, je suis obsédé, carrément.
J'ai fait cette séance de photo chez lui, qui était une photo nue. J'avais 14 ans et demi.
C'est la face sombre de Claude. Il a été limite, très, très limite, de poursuite judiciaire.
Et nous vous révélerons par quelle extraordinaire intervention au plus haut sommet de l'État, l'idole a finalement sauvé sa carrière.
Ah ah, mais pour en savoir plus, il faudra regarder ce soir à 21h sur W9. Vous l'aurez compris, si vous n'aimiez pas Clo-Clo, je vous conseille vraiment ce documentaire qui va vous faire changer d'avis, a priori, sur la personne. Mais par ailleurs, voilà, très bien réalisé par Jérôme Anthony. Ce sera ce soir
vous
à 21h.
Vous êtes en train de détruire ma jeunesse, vous vous rendez compte?
Bah, bien sûr, ouais. Vous qui avez toujours voulu faire Claudette.
Non, mais on lisait Podium, ouais, on avait que ça, il y avait que
moi,
ça.
Moi, je pensais qu'il avait juste une rigueur professionnelle.
Ouais, mais attendez, c'est que le début.
Ça fait mal,
hein. Il y en a encore 3-4 à venir dans les jours à venir, donc je pense qu'on va
devoir trouver les 11 citrons sympas.
Claude François a notamment chanté Rio.
Oui, et son fameux carnaval. Mais on sait maintenant qu'il n'y a pas besoin d'aller si loin pour faire la fête. En France, par exemple, on a le carnaval de Dunkerque, c'était il y a quelques jours. Et les équipes d'enquête exclusives. Les équipes d'enquête. Les macros, c'était plutôt avec Claude François, on l'aura bien compris. Et les équipes d'enquête exclusives sur M6 étaient à Dunkerque pour ce festival. Ils ont notamment suivi les secouristes qui gèrent les fêtards.
Ce soir, les 17 secouristes bénévoles ne vont pas chômer.
Quand vous rapatrierez les gens au poste, on a la zone OH++ à côté. Je vous rappelle, OH++, fracture Côte du Rhône. Ça a un petit peu trop bu, ça veut vomir. On me les met sur chaise, pourquoi? Pour éviter, d'une, que ça me mette le bordel dans le poste, parce qu'ils vont être un peu jovial, et surtout, pour que ça reste assis et que ça ne pourrisse pas tout ici.
La fracture Côte du Rhône, je ne connaissais pas, c'est joli comme
appellation.
Wesh, wesh, plus, plus. Ça veut dire très bourré, je pense.
C'est ceux qui arrivent complètement torchés du carnaval.
Donc pendant ce carnaval, on boit beaucoup, on mange également beaucoup pendant ce carnaval de Dunkerque. Par exemple, ces délicieuses pâtisseries au nom, vous allez voir, mais alors très très appétissant.
Si Frédéric est incollable sur ses pâtisseries, c'est parce que c'est lui qui les a inventées il y a quelques années.
Alors on a la crotte de Malo là. Ensuite, il y a le trou de balle à Chantal. Bon, c'est vrai que ça fait un peu vulgaire, mais en fait, c'est deux chansons qu'on a mis dans un shaker, on a secoué, et il est sorti le trou de balle à Chantal. Alors la chanson, c'est « Mets-toi dans le trou de mon cul, ça sent la rose ». Et la deuxième, c'est Chantal, pas mis ton nom dans votre football. Donc voilà, ça a donné un super gâteau qui est délicieux en plus. Merci, et j'ai besoin d'une boîte de chouchou là aussi. C'est important, ça.
C'est avant de boire.
Et tu rentres dans la boulangerie, tu dis où le trou? Et voilà, il te sert le trou de balle à Chantal. Évidemment, ça ne marche pas à Dunkerque.
Mais que je suis là-dessus. Bon, bah, ce matin, ce sera ça. Mais il y avait les couilles de Suisse aussi.
Ah, mais on en parle
tout de suite.
Ah, mais on en parle. Vous faites la transition parce qu'effectivement, vous avez goûté une pâtisserie au nom absolument délicieux. Patrick Timsit, on avait pu le voir à la télévision belge. Effectivement, belle séquence à la télé belge où vous mangiez des couilles de Suisse.
C'est ça.
Écoutez, on
fait un extrait.
Ah, bah, s'il vous plaît. Encore mieux.
Je préfère que ce soit dit de mon vivant. Moi,
vous connaissez les couilles de Suisse. Les couilles de Suisse. Non, c'est une spécialité, nous en mangeons en ce moment. Je vous propose de goûter.
C'est une pâte à pain en réalité qui est servie avec du beurre, noisette et de la cassonade.
C'est de la couille bien dense.
Alors, monsieur Timsit, on est une confrérie très jeune et donc on n'a pas encore de manque. D'honneur.
Est-ce que vous sortez parfois avec votre couille d'honneur pour les grandes occasions?
Je me demande où j'ai mis la médaille.
Ça s'accroche au veston ou comment ça se passe?
Figurez-vous que quand même, dans toutes ces fêtes populaires, je veux pas faire mon Stéphane Bern, mais c'est extrêmement touchant.
Exactement. Ça crée du lien.
Parce que c'était le dessert des mineurs et vraiment voilà, c'est fait à base de pâte à pain avec ce qu'ils avaient sous la main et donc après j'étais beaucoup plus touché quoi. C'est le nom qui est mal touché
par la couille de Suisse.
Bah, voilà, c'est le nom, mais c'est vrai que les gens sont perpétuent les traditions et il faut les respecter.
Donc j'étais très fier de faire partie.
C'est comme le trou de balle à Chantal, il a raison.
Allez, on se retrouve dans un instant.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Alors, on retrouve Patrick Timsit. Maintenant, j'ai la question. Mais c'est vrai que ce que dit très justement Albert Cohen, c'est qu'au fond, à travers sa mère, on retrouve son enfance. C'est tous nos souvenirs qui reviennent. Et est-ce que vous vous souvenez de toutes vos premières fois?
Ah, je... Mais nous, j'en ai des souvenirs. Et pas que des bons, pas que des bons.
La première fois où vous êtes monté sur scène, même enfant, hein, je ne sais pas, la première fois.
La première fois que je suis monté sur scène, alors on va parler l'enfant comme ça, c'est plus rigolo, mais c'est vrai que j'étais extrêmement tête en l'air. Je le suis toujours, hein. Je ne suis pas un bon organisateur. Et j'étais chargé dans une toute petite classe, mais vraiment, c'était peut-être de la maternelle, et pile, c'est tombé sur moi, il y avait un grand cercle où on dansait, et je devais couper le cercle en deux pour que ça fasse deux ronds, vous voyez. Et là, j'avais telle pression qu'évidemment, le soir de la représentation, ou l'après-midi du spectacle, j'ai jamais pu. Donc, on est resté à tourner en rond. Je me suis fait engueuler, forcément.
Bah oui.
Et oui, ça, c'est terrible. Ouais. Trop de pression.
La première fois, vous avez signé un autographe.
Je savais pas quoi mettre et j'ai dû trouver une signature. Parce que je disais, ah oui, mais qu'est-ce qu'on met? Et effectivement, c'était au Ranelagh, sorti du Ranelagh. Et de là, je me suis dit, il faudrait une signature plus simple. Je voulais une signature lisible.
Et oui, du coup, bien sûr. Les gens vont voir Patrick Timsit, ils ont envie que ça soit écrit Patrick Timsit.
C'est ça, et puis que ce soit un souvenir, en fait. Et puis, il fallait accepter aussi le fait de pouvoir faire un autographe, ce qui n'est pas évident. Parce que vous pouvez aussi avoir une humilité, enfin, de dire, mais qu'est-ce que vous êtes sûr, c'est compliqué.
On sait les selfies maintenant, de toute façon.
Et autographe, c'est double.
Votre premier achat avec votre premier chèque?
En tout cas, je me souviens de mon premier chèque, parce que le premier chèque dans nos métiers, c'est quand même le diplôme. Comme il n'y a pas de diplôme, à un moment, êtes comédien, vous êtes payé.
C'est bien,
donc c'est pas à être comme ça, mercantile, c'est un fait, voilà. En tout cas, ce que je me rappellerai, c'était pas le premier, mais j'aimais profiter des sous que j'avais gagnés comme ça. Et une fois les 3 mois de gains du café de la gare, je les avais dépensés en un week-end à Venise au Danieli.
Maintenant, il va au couvent.
C'est moins cher. Et vraiment, on nous avait pris pour un couple de jeunes mariés milliardaires. Et donc, je suis arrivé dans ce palace qui était le Danieli. J'ai dit, on pourra visiter peut-être la petite île de Murano où il y a les fameux lustres, les verreries, les souffleurs de verre. Ils me disent, non, demain c'est fermé, mais on va l'ouvrir pour vous. J'avais pas un rond, quoi. J'étais là. J'ai même pas pu acheter un fruit en verre. Et donc au début ils nous mettent à vaporer tout en disant vous inquiétez pas, on a visité toute l'usine qui était ouverte pour nous, la verrerie, le souffleur, et après il y a effectivement le magasin où on doit acheter des choses, j'avais absolument pas les moyens, et après ils nous ont dit bon bah le bus pour rentrer c'est là.
Eh bien je vous propose de prendre le bus pour retrouver Patrice Carmouze maintenant. Il nous attend pour nous offrir, pour offrir aux auditeurs un séjour Réside Home.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors, Patrice, je rappelle que nous faisons gagner un séjour, un week-end dans l'une des résidences hôtelières Réside Home, 3 jours de nuit en formule. Petit déjeuner. Alors, nous jouons. Patrick va faire gagner Françoise. Et moi, je vais essayer de faire gagner Gilles.
Et ce sont des chansons sur les mers, évidemment. Et donc, on commence par vous. C'est chacun son tour. Donc, qui chante ça?
Nicoletta et Johnny Hallyday et Joystar.
Vous voulez une oreillette peut-être, Patrick?
Oui.
Pour qu'on vous souffle mieux.
Merci tout le monde de m'avoir soufflé. Je vous aime.
C'est la version Joystar Nicoletta.
C'est Nick Tamami Blue. Ah, voyons.
J'aime bien les collectors comme ça.
Oui, mais il est fan.
Nick Tamami, oui. Alors, deuxième chanson, elle est dans le spectacle, donc c'est pas pour vous, c'est pour Stéphane.
On part en Belgique.
Oui.
C'est pas une couille de Suisse.
C'est Arnaud. Elle est dans le.
Très belle chanson.
Patrick.
Oui. Je suis pas bien dans ma tête, maman.
Lohan. Oui, Louane,
oui,
Louane,
oui,
Louane.
Oui,
c'est le frère de Louane. Merci encore, merci tout le monde. Merci, je remercie le public, sans qui je ne serais vraiment rien ce matin.
Il y a les cheerleaders qui auraient dans le studio avec des petits panneaux à carrément.
Ils écrivent de plus en plus gros, vous avez remarqué, j'arrive même plus à lire.
2-1.
Stéphane.
Oui. Oh mon Dieu, laissez-le-moi.
Le fils de Patrick.
Kenji Chirac. Chirac.
Le fils de Jacques. Le fils de Jacques, ça va aussi.
Oui. De part.
Voilà, Patrick, vous n'allez même pas avoir besoin d'aide pour ça.
Ah. Ah, France Gall, oui, oui. Sublime. Combien de fois j'ai pu me la dire, cette chanson, dans ma tête? Oui. Vous l'avez fredonnée ou pas dans votre tête?
Oui.
Par des moments de mélancolie, oui, comme ça, si où on rame, oui, on est triste, à mourir. C'est si maman,
si. Si tu voyais ma vie.
Ouais, si tu voyais ma vie. Aïe, 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 ouais.
Stéphane. I pray you'll
be my... En bas, c'est Vegas.
Oui. Oui. Mother Prayer. And watch her
where she goes. Elle a tout chanté, Céline Dion, en fait.
Ouais, c'est tout. Dans tous les moments de ta vie, il y a Céline Dion.
Elle apparaît.
Dans toutes émotions.
Elle t'accompagne.
Même quand
elle
vous avez des problèmes gastriques,
on a Céline Dion.
En fait, des grands-mères, vous croyez qu'on a un Céline Dion aussi, peut-être, hein.
Patrick, alors.
Ah oui, bien sûr.
La
bien
reine.
Sûr. Je connais
la reine. La reine.
Oui, oui, oui,
Queen.
Queen. Queen. Queen. Oui.
Oui, bien sûr.
Splendide. Merci le public encore une fois. Toujours là, présent.
Captain.
C'est moi.
Non, Stéphane, pour Stéphane.
Votre fille a 20 ans.
Ah.
Que le temps va se
Serge Reggiani, que j'adore.
Ah. Pas du tout.
Non, c'est pas lui qui chante.
Ah non,
c'est l'auteur de la chanson.
Ah, c'est, c'est, bon. C'est Moustaki, alors.
Que vous adorez aussi.
Vous l'adorez. J'aime les deux, mais au début, ouais, mais
vous avez
sur les premières
chansons. Les chansons appartiennent à celles qui les font aussi.
Oui,
qui les
oui absolument. Ouais, c'est Reggiani qui l'a première chanté.
Moi aussi, tout de suite été.
Mais c'est en effet une chanson de Moustaki.
Monsieur Moustaki.
Patrick, ça c'est facile. Celle-là aussi, on peut se la dire.
Ah, ça aussi, oui. Je suis pas bon. Alain Souchon, bien sûr.
Alors,
maman, bobo.
Alors, on est à égalité, on va prendre
Non, on est à 5-4.
1-5-4, bon, ouais, alors il faut que Stéphane égalise, pardon.
C'est moi qui mène. Hein.
Douce que me chantait ma maman.
C'est vrai qu'il y a de l'émotion dans toutes ces chansons.
Ah, oui.
Henri Salvador, le père de...
Nous aussi les hommages, hein, on sait faire.
Alors,
de la pétanque,
attention là Patrick, il faut être concentré parce que soit vous allez faire gagner Françoise, oui, soit Gilles va gagner, mais c'est le premier qui dit qui chante.
C'est Zugui des Guillets.
C'est aujourd'hui dimanche.
Georgette Planin.
Oui.
Ouais.
Là, c'est mon époque, hein, je m'en vais pas. Stéphane, évidemment, vous êtes trop jeune, moi, Stéphane. Je me suis dit, faut pas que je réponde, faut pas que je réponde.
Il
est trop vieux, ça
fait rentrer là-dessus sur son vieux spectacle.
Fallait voir, j'avais fait l'ouverture, moi.
C'est gagné.
Je faisais sa première partie.
Gilles, non, c'est Françoise. C'est Françoise. C'est Françoise qui part donc dans... pour un week-end Résidôme. Merci beaucoup. Merci Patrick Timsit. Je rappelle que jusqu'au 17 mars, vous êtes dans ce très très beau spectacle. Le livre de ma mère, c'est à 19h au Théâtre de l'Atelier, puis ensuite en tournée absolument demain. Nous serons avec un auteur de best-seller, Grégoire Delcour, dans en direct et en public dans À la Bonne Heure. RTL, merci. Il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.